Et ce matin, dans le 8h30 d'Alpe 1, notre invité Michel Philippot, bonjour.
Bonjour Cyrielle.
Vous êtes l'auteur avec votre épouse d'un livre qui vient de paraître aux éditions 2031, Un monde à construire ensemble. Alors, on va le résumer, on parle d'éco-construction, mais pas que. On parle de votre projet de vie qui vous amène justement à certaines conclusions, certaines analyses sur l'éco-construction. On va revenir sur tout cela. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur ce nom, ce sous-titre qui est donné. BTP, pour nous, c'est bois, terre, paille. Finalement, ça résume votre projet de vie.
Oui, quelque part, ça résume notre projet de vie. On habitait à côté de la plus grosse cimenterie d'Europe. Et donc, on a eu le béton en face de nous. On y a d'abord eu une réaction très protégeant notre santé. Voilà, parce que on se posait pas mal de questions. Il y avait des enfants. Ma femme venait d'avoir une toute petite, notre première fille. Et puis, on s'est posé des questions sur... les dangers environnementaux, et puis ça nous a fait le début du chemin.
Et c'est le début du chemin, c'est ça, c'est cette question au départ. Tiens, une cimenterie à côté de la maison, il y a un courrier qui vous a envoyé. Là, vous commencez à avoir un sentiment d'alerte, presque de menace. Et ça va vous conduire justement à un chemin de militants, tous les deux, à vous renseigner auprès de médecins. En fait, votre projet de famille a ouvert votre voie de militants.
Oui, voilà, parce que nous, on n'était pas du tout ni dans la politique, ni dans le militantisme. On avait une conscience écologique assez
voilà,
on faisait notre jardin, on était prof. Et on avait une conscience écologique de faire notre jardin et d'être proche de la nature, quoi. Alors, c'est sûr que quand ça nous tombe dessus, ça a changé un peu nos perspectives. On s'est dit, on s'est intéressé à ça. Et puis après ça, on a été un peu dégoûté au fur et à mesure de cette catastrophe environnementale pour nous qui s'abattait à côté de chez nous.
Alors on le précise, ça ne se passe pas dans les Hautes-Alpes, ouais. Ça ne se passe pas non plus dans les Alpes-de-Provence, ça se passe du côté de Tournai, où on parle non pas de maire mais de bourgmestre. Le ciment, c'est la question qui est posée au tout début de votre livre. C'est l'essence même du BTP aujourd'hui. On parle beaucoup de ciment, mais c'est aussi l'essence même d'une pollution à plus large échelle. Vous le précisez dans votre livre, 40% des émissions de CO2. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'éco-responsabilité, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'il faut trier, qu'il faut prendre son vélo, qu'il faut faire ci ou faut faire ça. On a l'impression qu'on nous culpabilise de ne pas être des bons citoyens, alors que à échelon national, voire international, finalement, presque rien n'est fait. Cette cimenterie dont vous parlez, elle est payée pour pouvoir brûler des déchets.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pendant longtemps, les cimentiers brûlaient de la pierre pour pouvoir en faire du ciment. Et puis à un moment, le coût des combustibles était de plus en plus cher. Et donc, en fait, à un moment, ils ont brûlé des déchets pour pouvoir cuire le ciment. Et effectivement... si ça peut diminuer certaines choses, en tout cas, comme on connaît la loi de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, ces métaux lourds, soit ils vont dans l'atmosphère, soit ils se retrouvent dans le ciment. Et puis nous, ça a été tout un impact qui a été même dans une dimension internationale. On a eu des amis, aux États-Unis, au Brésil, un peu de partout, où on a essayé de se fédérer pour avoir une réflexion sur toute cette question, pourquoi à un moment... Ce sont des privés qui s'occupent de la question de nos déchets.
Et pourquoi ? La réponse ?
La question, c'est qu'il y a beaucoup d'argent et beaucoup d'argent en jeu. Et donc, quelque part, on veut en faire de plus en plus. Mais nous, toute cette histoire et dans ce livre, on essaye de le montrer aussi de manière positive. Ça nous a mené au militantisme, ça nous a fait prendre conscience du poids, effectivement, du secteur du bâtiment. Et un jour, ça nous a posé la question de faire autre chose et de faire autrement.
Et ailleurs, d'ailleurs. Ce fameux ultimatum, vous recevez d'ailleurs chez vous, dans cette maison que vous venez de rénover, vous recevez chez vous un spécialiste, un expert, et votre épouse lui demande « qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et là, sa réponse, elle est finalement très très claire, il faut déménager.
Oui, après, on peut toujours dire « est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ?» Nous, en tout cas, le militantisme, à un moment, nous devenait quelque chose de plus gratifiant, et ça nous donnait aigri, on voulait construire pour... être pour, et c'est comme ça qu'on est arrivé dans les Hautes-Alpes avec ses beaux territoires et sa montagne.
Voilà, c'est ça, vous allez quitter finalement votre petit village de Tournai pour Éour dans les Hautes-Alpes. D'ailleurs, vous allez rejoindre Éour à vélo, 1200 km à vélo avec vos deux enfants, dont un bébé.
Oui, dont un bébé de 5 mois. Donc la famille nous disait que c'était à peine plus réaliste ce qu'on faisait, on quittait la famille et tout. Et à la fois, c'était une aventure qui était un peu comme une nouvelle naissance. Parce que c'était, on allait arriver à autre chose, à une autre vie. On a d'abord eu beaucoup d'illusion aussi. On voulait vivre de l'autonomie, on voulait vivre de nos propres légumes, on voulait construire notre maison avec du bois, de la terre crue et de la paille avec nos propres moyens. Mais aussi, très vite, on a vu aussi ce que c'était, ce que pouvaient être les limites, je vais dire, de l'autonomie. Mais bon, on était dégoûtés d'un certain monde, dégoûtés du monde politique, dégoûtés de plein de choses. Et c'est ce qui nous a fait... En tout cas, tester avec joie aussi et aussi recevoir plein de gens chez nous. Parce que quand on s'est mis à faire du woofing sur l'éco-construction et sur le jardinage, l'autonomie alimentaire, ben, y a plein de gens qui venaient. Et c'était aussi des rencontres passionnantes.
D'ailleurs, dans votre livre, vous n'avez pas honte d'écrire que parfois, vous avez eu une attitude de bobo. À quel moment on n'est plus bobo ? À quel moment on est vraiment écolo ?
J'en sais rien. Moi, je pense que... Il n'y a pas à classifier des gens spécialement dans...
Mais c'est quoi dans... le bobo ? C'est celui en fait, qui ne sait pas vraiment ce qui lui tombe sur la tête. À un moment, vous expliquez, vous vouliez isoler votre maison et vous allez vous renseigner auprès d'un fabricant, notamment de laine de lin. Et là, le tarif tombe.
Bah oui, parce que c'était 10 fois plus cher que les autres isolants. Bah, on se dit, bah, pourquoi pas ? Et nous, on était tellement bêtes parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce livre. En gros, on en a mis 3 fois moins. Et ce qui vaut absolument rien pour l'isolation. Mais nous, on avait quand même payé 3 fois plus cher en en mettant 3 fois moins. Et puis, à un moment, bah, on a appris le système D, faire des pas de côté. Et puis, à un moment, on s'est dit, bah oui, mais il y a peut-être aussi des choses à changer dans la matrice productive du pays. Et il y a peut-être des choses réellement à faire des pas de côté complet, quoi.
Alors, qu'est-ce qu'il y a à changer, justement, aujourd'hui ? C'est l'un des sujets d'actualité. Le BTP s'inquiète beaucoup de la pénurie des matières premières, des matériaux. Est-ce que, finalement, ce n'est pas le bon moment pour prendre un virage, celui de l'éco-construction ? Vous l'expliquez au début de votre livre, vous dites, voilà, moi, je n'étais absolument pas bricoleur. D'ailleurs, votre mère l'a très souvent dit, vous n'êtes pas bricoleur. Et pourtant, vous avez fait plusieurs maisons.
Oui, j'en ai fait deux. Ouais. Après, j'ai fait d'autres constructions aussi pour des gens, mais voilà.
Mais en tout cas, vous avez pu mettre en place cette éco-construction que vous avancez.
Oui, tout à fait.
Et c'est possible, ça, justement, dans l'économie et dans l'économie locale, de pouvoir le décliner.
Ah ben, il y a des choses extrêmement grandes et extrêmement belles qui se sont faites en bois, en terre crue, en paille. Je prends l'exemple d'un immeuble à Saint-Dié-des-Vosges, qui est R+6, qui stocke 1100 tonnes de CO2. Donc, au lieu d'en dépenser, en fait, alors ça paraît extrêmement bizarre, mais en fait, on cuit des matériaux. Donc ça, c'est la première émission de CO2. Et après ça, en fait, dans les maisons, on chauffe énormément, surtout à Saint-Dié-des-Vosges, c'est comme à Gap, hein, je veux dire, il fait aussi froid. Et donc, on doit chauffer les maisons. En plus, c'est des passoires thermiques. Et parfois, quand on construit autrement, eh bien, on peut diminuer la note de chauffage et on peut la diminuer parfois drastiquement, quoi. Voilà.
Et cette fameuse façon de construire autrement, elle coûte moins cher à l'usager ou non ? Parce que c'est souvent ce qu'on dit, oui, mais faire mieux pour l'environnement, ça coûte aussi trop cher.
Alors, il ne faut pas se mentir. C'est-à-dire que quand on fait soi-même, effectivement, à un moment, ça revient moins cher. Hein. Surtout quand on va chercher des matériaux dans la nature. Moi, je l'ai vécu, je n'avais pas d'argent, j'ai réussi à construire. Mais quand on passe par des artisans, dans une logique économique, à un moment, ça a un coût. Mais parce que d'autres choses ont un coût. Quand des matériaux viennent de Chine, font le trajet avec des enfants sous-payés, etc., ça a aussi un coût, mais c'est un coût environnemental. Et donc, effectivement, parfois, on a des constructions qui sont 10-15% plus chères quand c'est fait par des artisans à un bon tarif avec des matériaux équilibrés.
Mais c'est viable. Économiquement, c'est viable. Ça peut être
viable. Oui, tout à fait. Oui, oui.
Vous avez la réponse à la question que vous vous êtes posée. Que peut un couple uni face au bulldozer de l'ultra-capitalisme ? Quel est le levier le plus efficace ? Le militantisme, la vie autonome ou la politique ?
Alors, pour moi, je pense qu'il n'y en a aucun des trois qui est le seul efficace. Je pense qu'il faut, pour renouveler notre société, s'écouter. Et c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire entre les militants sociaux, bien, ils doivent écouter les militants écologiques, les militants de la démocratie. Moi, je pense qu'il n'y aura rien qui pourra se passer si on ne travaille pas avec les actuels agriculteurs pour la révolution écologique, même s'il y en a qui découvrent la réappropriation de manger autrement, de la permaculture. Il faut qu'on puisse parler à ceux qui aujourd'hui sont agriculteurs depuis des années. C'est la même chose dans le BTP. Je m'en veux d'une seule chose à l'époque. C'est qu'on a fait notre pas dans mon jardin et notre lutte contre l'environnement à dire qu'il y a plein d'ouvriers dans les cimentiers qui aujourd'hui vivent la délocalisation en Chine et on aurait dû tout construire avec eux. Et c'était hyper passionnant. On a eu des liens avec eux puisqu'il y en avait certains qui n'avaient pas trop envie de mettre la main dans les déchets. Et aujourd'hui, ben, y a plein de délocalisations et ça continue. Et donc, c'est vraiment la question de tous s'écouter et de construire un monde ensemble. Et c'est ça le titre du livre, quoi.
Et donc, faire autrement, aujourd'hui, ça passe par ce qu'on appelle le local, le consommer local, le faire local, le produire local.
Oui, tout à fait.
Et c'est ce que vous mettez en avant dans votre livre. Est-ce que d'ailleurs, votre livre, vous allez l'envoyer aux fédérations de BTP?
Alors, c'est très, très étonnant. Mais on a déjà fait notre conférence gesticulée, par exemple, à la FFB du 13. C'était passionnant. Parce que moi, ça m'intéresse aussi de rencontrer plein de petits patrons et même des gros patrons, je veux dire, sur la question du BTP, parce qu'il y a plein de choses. La FFB du 13 est fait en, du 93 est fait en bois, en terre crue et en paille. Dans le 13, c'est ça où on avait fait notre conférence. Mais oui, il y a une recherche, ils ne sont pas du tout opposés à la question. Et donc, moi, ça m'intéresse vraiment de rencontrer même les patrons du BTP classique. C'est passionnant, quoi.
Merci beaucoup, Michel Philippot, d'avoir été avec nous ce matin dans le 8-30. Je rappelle que vous êtes l'auteur, avec votre épouse, d'Un monde à construire ensemble. C'est aux éditions 2031. Merci beaucoup.
Merci.